Il fuit le Rwanda. En septembre 1994, il obtenait des passeports pour lui-même et sa famille et est parti au Cameroun, pays où toute une série de génocidaires avaient trouvé refuge. Mais c'est en 1996, après l'arrestation de d'autres fugitifs, Bagosora, qu'il ne se sentait plus vraiment en sécurité et qu'il est parti en RDC. Et c'est là où, quand il y avait la Deuxième Guerre du Congo, qu'il est devenu, avec la FDLR, la Force démocratique de libération du Rwanda, où il était un des commandants, il s'est battu ensemble avec les forces militaires du Zimbabwe.
Oui, puisqu'il a combattu auprès de l'armée congolaise de Laurent Désiré Kabila, qui avait demandé l'aide du Zimbabwe pour se battre contre l'armée rwandaise, c'était en 98.
C'est ça. Il était lui-même un des officiers supérieurs, d'ailleurs fort respecté par les autorités et les forces militaires du Zimbabwe, parce qu'il était considéré comme un officier très discipliné. Mais une fois qu'il y avait alors l'accord de paix en 2002, il était considéré comme indésirable en RDC. C'est à ce moment-là qu'il est parti en 2002 au Zimbabwe, où il y a manifestement eu des officiels qui ont facilité son entrée au pays.
Et à l'époque, il était déjà recherché.
Et à ce moment-là, il est déjà recherché. Il fut inculpé en 2000 par le tribunal pour le Rwanda, acte d'accusation qui est devenu public en 2002. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs arrestations, notamment au Cameroun. Et alors, il a décidé de trouver refuge dans le pays où il se sentait probablement le plus en sécurité, le plus protégé. Et c'était manifestement le Zimbabwe, où il avait évidemment le soutien de certains membres des armées.
Quand est-ce que vous avez eu des informations sur sa possible présence au Zimbabwe ?
En fait, c'est déjà depuis de nombreuses années. Quand moi j'ai repris le mécanisme, c'était déjà dans les dossiers comme une des pistes importantes qu'il y avait déjà à l'époque des raisons de croire qu'il se trouvait là-bas. Maintenant, nous travaillons évidemment avec des sources, des informateurs, et ces 5 dernières années, nous avions beaucoup d'informations contradictoires. On avait des informations comme quoi il vivait au Zimbabwe, mais on a aussi des informations comme quoi il se trouvait entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, qu'il avait soit des activités politiques ou des activités commerciales. Et c'est un peu toutes ces pistes-là qu'on a essayé de retracer pour enfin conclure qu'il se trouvait au Zimbabwe. Là où le Zimbabwe, pendant beaucoup d'années, avait dit « Non, nous ne pensons pas qu'il ait jamais été sur notre territoire. »
Donc à partir de ce moment-là, vous envoyez des enquêteurs sur place.
Les 2 dernières années, j'étais moi-même plusieurs fois sur place. C'était en fait après le départ de Mugabe que j'ai rencontré les 2 vice-présidents, le procureur général, et où il y avait un accord de mettre en place un groupe de travail composé de services de police, services de renseignement du ministère des Affaires étrangères. Et cette coopération n'a pas tous les jours été facile, mais une fois que nous étions, en ce qui nous concerne, assez convaincus qu'au moins en 2002-2003, il se trouvait physiquement au Zimbabwe, nous avons vraiment concentré notre enquête sur cette piste-là.
Alors, vous allez sur place et comment vous le retrouvez ?
Nous avions aussi interrogé toute une série de personnes qui étaient proches dans des pays européens et ailleurs, et dans des pays en Afrique. Et nous avions en effet une piste importante qui était qu'il était peut-être décédé. Et nous avons alors pu aussi faire des saisies d'ordinateurs et d'autres matériels informatiques. Et nous avons pu trouver des traces comme quoi il était décédé. Nous avons alors vérifié les mouvements de toute une série de personnes, y compris des membres de sa famille. Nous avons pu constater que pendant les dates qui nous intéressent, des membres avaient été au Zimbabwe. Nous avions alors essayé de recouper ces informations de voyage et nous avons alors, une fois que nous pensions savoir sur quel cimetière chercher, nous avons physiquement cherché sur ce cimetière et en trouvé une tombe avec l'inscription d'un des noms alias qu'il avait utilisé pendant sa fuite. C'était sa dernière identité, Ndoumé Sambao, qui était l'identité sous laquelle il était décédé, et c'était le nom que nous avons retrouvé sur la tombe.
Donc sur sa tombe, il n'y a pas son vrai nom ?
Non, il n'y a pas son vrai nom, mais il y a sa vraie date de naissance. Et nous avions alors fait une demande aux autorités de pouvoir faire une exhumation qui a été réalisée il y a 3 semaines. L'ADN a été envoyé à l'Institut de police technique ici à La Haye. Il y a 2 jours, nous avons reçu les résultats et la conclusion qu'en effet, c'était notre fugitif.
Alors cette affaire pose la question des soutiens dont les fugitifs bénéficient parfois.
Oui, la coopération des États reste toujours un problème important. Ce serait difficile de croire qu'aucune autorité au Zimbabwe n'était au courant de sa présence sur le pays. Mais il est clair que, d'une manière générale, et nous le voyons avec tous nos fugitifs, ils ont jusqu'à 20 identités différentes. Ils ont quasiment tous reçu des vrais passeports avec des faux noms délivrés par les autorités compétentes, ce qui évidemment signifie corruption, paiement de fonctionnaires. Et je dois dire que les demandes d'entraide que nous avons envoyées en ce sens à toute une série de pays dans la région, y compris l'Ouganda, n'ont jamais reçu de réponse satisfaisante.